Vous écoutez, on lit pour vous.
Sécuritaires, les moules en silicone? Un texte de Kathleen Couillard, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru le 29 mai 2023 dans Verdict Santé. Anti-adhésifs et résistants à la chaleur, les moules en silicone ont la cote. Mais certains avancent que ces accessoires de cuisine pourraient laisser échapper des contaminants chimiques. Pour le savoir, nous en avons testé 44 modèles, dont 14 vendus au Québec. Ustensiles de cuisine, vaisselle pour bébé, moule à muffins et à gâteaux. Les accessoires de cuisine en silicone sont populaires en raison de leurs propriétés antiadhésives, de leur durabilité et de leur côté réutilisable. Ce matériau est également beaucoup plus résistant à la chaleur que le plastique. Le hic, c'est que des substances qui le composent, les siloxanes, sont considérées comme préoccupantes. En effet, certaines de ces molécules ont été associées à des tumeurs et à des troubles du foie, des poumons ou du système reproducteur dans des études réalisées chez les animaux. Pourtant, il n'existe ni loi ni règlement au Canada pour garantir l'innocuité du silicone en contact avec les aliments. Même chose en Europe. Santé Canada estime que le silicone ne réagit pas avec les aliments et les boissons et qu'il ne produit pas de fumée toxique. L'organisme fédéral précise que l'utilisation du silicone n'a été associée à aucun danger connu pour la santé. Il y a cependant peu de données sur le silicone, souligne Lise Parent, professeure à la TELUC et membre fondatrice du Réseau des femmes en environnement. Le Bureau européen des unions de consommateurs avance pour sa part que le silicone n'est pas aussi inerte qu'on le pense et qu'il pourrait libérer certains produits chimiques dans les aliments. Les composés du silicone. Le silicone est constitué d'une chaîne de molécules semblables à des blocs de construction. Ces blocs portent le nom de siloxanes. Pendant le processus de fabrication, les siloxanes s'unissent les uns aux autres pour former une longue molécule de silicone. C'est ce qu'on appelle la polymérisation. Plus la molécule est longue, moins elle est volatile, c'est-à-dire qu'elle est moins susceptible de migrer vers les aliments. Cependant, il peut arriver que des molécules individuelles de siloxanes demeurent dans le produit après la fabrication. Si ces composés migrent dans les aliments en trop grande quantité, ils pourraient nuire à votre santé. Ce risque existe aussi dans le cas d'autres substances chimiques ajoutées au silicone, comme des plastifiants ou des colorants. Pour évaluer les risques potentiels associés aux accessoires de silicone, Verdict Santé a testé avec d'autres membres de l'International Consumer Research and Testing, ICRT, 44 modèles de moules à muffins, à beignets ou à petits gâteaux, dont 14 sont vendus au Canada, principalement en ligne. Les critères d'évaluation se basaient sur des normes européennes encadrant le plastique et sur des recommandations internationales. Les tests de migration des différentes molécules ont été effectués dans l'éthanol pour simuler des aliments gras et dans l'acide acétique pour imiter les aliments plus acides, tels que les produits fermentés. Résultat : plusieurs modèles laissent passer des contaminants chimiques vers les aliments gras, mais pas vers les aliments acides, dans des quantités insuffisantes pour mettre en danger votre santé. La stabilité du silicone. Le silicone de votre moule réutilisable doit être assez stable pour tolérer de hautes températures à répétition. Les échantillons ont donc été soumis au même test de migration à 3 reprises afin de reproduire des conditions d'utilisation réelles. La stabilité du produit était jugée insuffisante si la quantité de composés volatiles détectés dans les aliments augmentait entre le premier et le troisième essai. La majorité des modèles ont passé le test avec succès. 3 produits ont été jugés instables. Les modèles d'Amazon Basic, de Tupperware et de Wish. Libération de composés volatiles. Selon les normes européennes établies pour le plastique, un matériau ne devrait pas libérer plus de 60 mg de composés volatiles, quelle que soit la nature de ceux-ci, par kilogramme d'aliments. Deux modèles dépassaient cette limite, l'Amazon Basic et Lion Egg, qui contenaient plus du double de la quantité acceptable. Pour ce qui est des composés volatiles, de siloxane en particulier, ils ont été détectés au-delà des limites de référence pour plusieurs modèles après la première et la troisième migration. Lors de la troisième migration, ces composés volatiles étaient présents en trop grande quantité dans 4 des 14 modèles vendus au Canada. Amazon Basic, AliExpress, moule de cuisson pour beignets, Iron Egg et Tupperware. Ces 4 produits sont jugés non conformes à la réglementation européenne. Enfin, des additifs ont été détectés dans les modèles de Tupperware, de l'écuée, moule à gaufres, deux pièces, rouges et de Wish. Les quantités étaient cependant largement en deçà des normes européennes et des standards internationaux. Présence de substances préoccupantes. Selon certaines normes européennes, les accessoires et contenants de cuisine ne devraient pas contenir de composés chimiques présentant un risque pour la santé humaine. Parmi ceux-ci figurent les siloxanes D4, D5 et D6. La benzophénone, le salicylate d'octyle et le phtalate de tibutyl, qui sont classés comme étant des perturbateurs endocriniens, des cancérigènes, des mutagènes ou des substances toxiques pour la reproduction. Nous avons donc mesuré leur présence dans les moules de silicone testés. Une ou plusieurs de ces molécules ont été détectées dans 9 des 14 produits vendus au Canada. Les niveaux étaient négligeables et ne constituaient pas une menace pour la santé. Aussi, aucun échantillon ne contenait de phtalates. Certains tests ont aussi été effectués sur des échantillons pour vérifier la présence de bisphénol A, BPA, un perturbateur endocrinien interdit dans les biberons depuis 2008 qui est utilisé pour rendre le plastique dur ou d'amine aromatique, considéré comme cancérigène. Aucune trace n'a été détectée. Des choix sécuritaires? Parmi les moules vendus au Canada, seulement 4 ne comportent aucun risque de contamination chimique, ceux de Home Edge, d'IKEA et les 2 produits Silicomart. Dans ces modèles, la libération de composés volatiles était faible et diminuait entre le premier et le troisième test. En fait, aucun ne dépassait 0,17 mg par kilogramme à la première migration et 0,08 mg par kilogramme à la troisième. La limite était fixée à 10 mg par kilogramme pour obtenir la meilleure note. De plus, aucune substance préoccupante n'y a été détectée. Par contre, le moule Tupperware vendu par Amazon figure au bas de notre classement en raison de son manque de stabilité, de la libération d'une trop grande quantité de composés volatiles et de la présence de substances préoccupantes. Ces résultats résument bien la situation du silicone, remarque Anne Maltais, chercheuse à l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire. Les produits, comme ceux en plastique, ne sont pas inertes. Cependant, les composés libérés au cours de leur utilisation ne semblent pas être problématiques pour la santé humaine. Le prix, pas un gage de qualité. Le prix d'un moule en silicone n'est pas un gage de son innocuité. Par exemple, le modèle d'IKEA figure parmi les choix sécuritaires et ne coûte que 5 $, alors que le moule à muffins de Tupperware présente plusieurs problèmes de nocivité malgré son prix de 50 $. Diminuer les risques. Selon le Bureau européen des unions de consommateurs, il est possible de réduire la présence de contaminants dans les accessoires en silicone en traitant le produit final à la chaleur. Toutefois, comme ce traitement est coûteux, certains fabricants n'y ont pas recours de façon constante. Cela expliquerait pourquoi l'innocuité des moules en silicone varie d'un modèle à l'autre. Au quotidien, on peut diminuer notre exposition en n'utilisant pas les moules en silicone tous les jours, indique Lise Parent. Les moules à muffins en acier inoxydable peuvent alors constituer une option intéressante. En effet, ce matériau relâche très peu de substances chimiques dans les aliments et occasionne rarement des problèmes de santé, selon le National Institute of Health des États-Unis. Cependant, il faut s'assurer que ces moules ne sont pas recouverts d'un enduit anti-adhésif. Selon la Fondation David Suzuki, le silicone demeure en effet plus sécuritaire que les substances anti-adhésives à base d'acide perfluorooctanoïque, APFO, un composé utilisé dans la fabrication du Teflon. Par ailleurs, les tests ont montré que la migration des produits chimiques a tendance à diminuer d'un essai à l'autre. Pour cette raison, les experts consultés par l'ICRT suggèrent de faire cuire un mélange de farine, d'huile et d'eau et de jeter la masse cuite avant la première véritable utilisation. Attention à la température maximale. Selon Lise Parent, il importe de toujours respecter les conditions d'utilisation d'un produit comme le silicone, en particulier la température maximale suggérée, qui peut varier entre 220 degrés Celsius et 260 degrés Celsius, 428 degrés Fahrenheit et 500 degrés Fahrenheit. Cela limite les risques que des substances toxiques soient relâchées dans l'air ou dans les aliments. Selon nos tests, ces préoccupations se révèlent particulièrement importantes dans le cas d'aliments contenant une proportion élevée de matière grasse. Il est alors préférable de ne pas atteindre la température maximale recommandée par le fabricant. De plus, les moules en silicone ne doivent pas être mis en contact direct avec une source de chaleur comme une flamme, une plaque chauffante, un grill ou une surface de vitrocéramique. Le produit pourrait alors fondre. On recommande aussi de déposer les moules dans un four préchauffé et non dans un four froid, à au moins 5 cm des parois et du dessus de l'appareil. Conseil d'entretien. Les experts de l'ICRT suggèrent de ne pas employer de détergent trop puissant lorsque vient le temps de nettoyer le moule, car il pourrait en endommager la surface. Évitez aussi les objets tranchants et pointus qui risquent de causer des égratignures ou de couper le silicone. Assurez-vous de suivre les indications fabricants en ce qui concerne autant l'utilisation que l'entretien de vos moules. 12 des 14 produits testés offerts au Québec présentaient cette information avec plus ou moins de détails. 8 modèles affichaient la température d'utilisation et certains avertissements directement sur le produit. Utile si on jette l'emballage. Aucune information, autant sur l'emballage que sur le produit, n'était indiquée pour les modèles AliExpress, moule de cuisson pour beignets et Iron Egg. C'était « Sécuritaire, les moules en silicone », un texte de Kathleen Couillard, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, paru le 29 mai 2023 dans Verdict Santé.
La diversité, l'équité et l'inclusion intégrées à la culture d'entreprise chez Air Canada. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 23 juin 2023 dans le magazine Fugue. Air Canada a adopté au cours des années plusieurs pratiques et politiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, EDI, pour tous ses employés, y compris les employés de la communauté LGBTQ2+. Les initiatives mises en place auprès du personnel pour rendre le milieu de travail plus inclusif et respectueux de la diversité sexuelle et de genre sont nombreuses et ont débuté dès le milieu des années 1990. En 1996, la compagnie a d'abord modifié ses politiques en ressources humaines, RH, en reconnaissant les conjoints de même sexe, leur permettant ainsi d'avoir accès à tous les avantages sociaux. Plus récemment, Air Canada a montré son leadership en étant la première compagnie aérienne à laisser tomber le « monsieur-madame » au début de ses annonces passagers à bord de ses vols en 2019, suivi par d'autres transporteurs tels que British Airways et Lufthansa en 2021. Précisons que la pratique s'applique également aux annonces passagers faites aux aéroports. Au cours des dernières années, Air Canada a aussi apporté des changements informatiques pour permettre désormais à ses passagers de pouvoir s'identifier autrement que par l'identité binaire en proposant les options non divulguées et non spécifiées au formulaire d'identification personnelle à l'achat de billets d'avion en ligne sur aircanada.com. Air Canada a aussi augmenté sa participation et sa visibilité lors des différentes activités, défilés de la fierté à travers le pays, ce qui a donné aux employés l'occasion de s'engager et de créer des liens d'ouest en est. Cette visibilité a aussi montré publiquement l'appui de la compagnie auprès de ses employés de la communauté LGBTQ2+ et ses alliés. Plusieurs mesures ont été implantées au cours des deux dernières années pour rendre le milieu de travail plus inclusif, soit de la formation, de nouvelles normes et pratiques. Uniforme. Afin de devenir une entreprise plus inclusive, Air Canada a modifié ses normes d'uniforme de telle sorte que les employés peuvent désormais combiner des éléments d'uniforme coupés traditionnellement pour hommes et pour femmes. Les employés portant l'uniforme ont accès à la fois aux sections coupe-femme et coupe-homme du catalogue, ce qui leur permet, s'ils le souhaitent, de combiner des éléments ou de sélectionner un uniforme correspondant à leur identité. Les employés peuvent également, désormais, commander des insignes nominatifs et des cartes professionnelles, incluant leurs pronoms. Et les employés en uniforme peuvent commander des écussons réfléchissants ou des épinglettes, selon leur uniforme, comprenant leurs pronoms. Abréviation. Sur l'avis de l'équipe des solutions linguistiques, la société utilise désormais le nom et l'abréviation LGBTQ2+, pour nommer les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers ou, parfois, en questionnement, et bispirituelles. Le signe « plus » représente d'autres identités, comme les personnes asexuelles, androsexuelles ou bicurieuses. Nous demandons aux employés d'utiliser ces termes lorsqu'ils y font référence dans une communication. Lieu de travail. Air Canada a également mis en place l'accès à des toilettes non genrées dans les locaux de son siège social à Montréal. Divertissement à bord. Aussi, Air Canada a également eu recours à son système de divertissement à bord pour sensibiliser ses passagers à la réalité de la communauté LGBTQ2+, au moyen de films, d'émissions de télévision et de documentaires. Dans cette optique de sensibilisation, Air Canada a permis à Gina Hall Lazarowick de présenter son documentaire « Crow's Transformation » devant des politiciens au Parlement d'Ottawa, de faire traduire la vidéo et de mettre le documentaire dans son système de divertissement à bord à compter de juin 2023, à temps pour la saison de la fierté. Campagne auto-identification. En tant qu'entreprise sous juridiction fédérale, Air Canada est assujetti à la loi sur l'équité en matière d'emploi et à l'obligation de rapporter annuellement la composition de son effectif en ce qui concerne le genre, les minorités visibles, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. En 2021, la compagnie a décidé d'aller plus loin et d'ajouter des questions au questionnaire d'auto-identification que les employés peuvent répondre de façon volontaire aux questions. Les questions supplémentaires, qui incluent l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle, permettront d'identifier de barrières potentielles et d'éliminer des désavantages vécus par certains groupes sous-représentés. Au printemps 2023, une nouvelle campagne a été lancée avec témoignages à l'appui et messages de la haute direction pour augmenter la participation des employés. La collecte de ces renseignements est un processus essentiel qu'utilisera Air Canada pour mesurer l'efficacité et les progrès de ses initiatives de diversité, ainsi que ses programmes pour favoriser la participation équitable à tous les échelons de la société. Nous avons besoin que le plus grand nombre d'employés possible s'auto-identifie afin d'avoir un ensemble de données solides. C'était la diversité, l'équité et l'inclusion intégrée à la culture d'entreprise chez Air Canada. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 23 juin 2023 dans le magazine Fugue.
Violence sexuelle. Quelles sont mes options? Une collaboration spéciale avec Éducalois, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue. Chaque personne victime ou survivante de crimes à caractère sexuel est confrontée à une situation unique. Chaque parcours de guérison est personnel et les choix faits par les personnes victimes dépendent des circonstances et de leurs besoins. Dans cet article, nous souhaitons informer les personnes victimes ou leurs proches de différentes démarches disponibles. Obtenir de l'aide et du soutien, vous pouvez en parler. Peu importe votre parcours, du personnel d'intervention peut également vous soutenir et vous aider à identifier les démarches qui répondent le mieux à vos besoins. Pour en savoir plus, communiquez avec Info Aide Violence Sexuelle au 1-888-933-9007, Interligne 1-888-505-1010. Portez plainte à la police. Une personne victime n'est pas obligée de porter plainte à la police, mais si vous le souhaitez, c'est un processus qui permet, entre autres, de dénoncer des comportements inappropriés, de punir les personnes qui commettent des crimes, de vous protéger. Cette démarche est gratuite. C'est l'État qui décide de poursuivre ou non la personne et qui entreprend les procédures devant le tribunal. Vous pourriez avoir à témoigner au moment du procès. Pour en savoir plus, educalois.qc.ca/capsule/porter-plainte-a-la-police-après-1-crime. Participer à une médiation pour échanger avec l'autre. Cette démarche vous permet d'échanger sur les torts subis, vos besoins et vos attentes avec la personne qui a commis les violences sexuelles. Une médiatrice ou un médiateur neutre encadre les échanges. C'est un processus qui est volontaire. On ne peut donc pas obliger une personne à y participer. Cette démarche est gratuite et la plainte à la police n'est pas obligatoire. Pour en savoir plus, ASSOJAQ.org. csjr.org. EQIJUSTICE.ca. Poursuivre au civil pour recevoir un dédommagement. Cette démarche permet de demander un montant d'argent à la personne qui a commis les violences sexuelles pour compenser les torts causés, comme des pertes de revenus ou de frais de thérapie. Vous devez faire vous-même une demande à un tribunal ou avec l'aide d'une avocate ou d'un avocat. Vous devrez assumer les frais d'avocat et des procédures. La plainte à la police n'est pas obligatoire. Pour en savoir plus, vous faire indemniser pour vos dommages, educaloi.qc.ca/la-responsabilité-civile. Portez plainte en cas de discrimination dans vos démarches. Vous pouvez dénoncer la discrimination ou le harcèlement subi en raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ. La Commission ouvrira un dossier si elle peut intervenir. Elle peut corriger la situation, sensibiliser les personnes fautives ou leurs organisations, dédommager la personne victime. Pour en savoir plus, consultez le site web cdpdj.qc.ca/fr. Écoutez des témoignages d'autres personnes victimes. Des personnes victimes de violences sexuelles qui s'identifient aux communautés LGBTQ+, témoignent dans la série Balado #après. Disponible sur le site educaloi.qc.ca/publication. Vous pourrez en apprendre plus sur leur parcours et sur la plainte à la police, le processus criminel et la médiation. Cet article est inspiré du guide de poche d'Éducaloi qui présente diverses démarches à la portée des personnes victimes de crimes à caractère sexuel. Vous pouvez le consulter ou le télécharger gratuitement. educaloi.qc.ca/publication/communauté-lgbtq-violence-sexuelle. C'était Violence sexuelle. Quelles sont mes options? Une collaboration spéciale avec Éducaloi, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue.